franceinter.fr.
Et la ville d'Uzès dans le Gard qui découvre son passé antique. Ce sont 4000 mètres carrés de rues, de maisons, une production de vin, une mosaïque d'exception que viennent de mettre au jour les archéologues dans la cour de l'ancienne gendarmerie d'Uzès. Philippe Quint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes archéologue spécialiste du monde antique et responsable d'opérations pour l'INRAP sur ce site en particulier. Quelle a été votre réaction quand vous avez découvert que cette cité antique existait bel et bien sous l'actuelle ville d'Uzès ?
Ben, on a été très étonnés au départ puisqu'on n'avait aucune donnée sur l'histoire romaine et l'histoire gauloise de la ville d'Uzès. Donc ça a été une vraie surprise de trouver autant de vestiges, autant de structures et puis surtout dans un état de conservation aussi remarquable.
Quels sont les éléments qui vous permettent de dire avec certitude qu'il y avait une véritable ville ?
Parce qu'on a retrouvé sur les 4000 mètres carrés qui ont été ouverts, on a retrouvé plusieurs axes de circulation, plusieurs rues, et puis de chaque côté des rues s'organise une véritable urbanisation avec des îlots, des maisons privées, donc dont on a retrouvé les fondations, parfois les élévations, les sols, et puis d'autres îlots dont l'un d'eux qui contient un bâtiment peut-être à caractère public, avec à l'intérieur une très grande mosaïque d'environ 60 mètres carrés.
Alors ça, c'est la pièce maîtresse de votre fouille, en tout cas la plus impressionnante. Qu'est-ce qu'elle représente, cette mosaïque ?
Alors cette mosaïque, elle représente principalement des motifs géométriques assez classiques. Et puis sur ces 60 mètres carrés, il y a deux motifs principaux, dont l'un porte des représentations de quatre animaux. Hein. On y voit un aigle, une biche, un canard et une chouette. Donc une particularité aussi dans le motif. Et puis il y a surtout une inscription qui a été observée, une inscription réalisée en tessel, ce qui est assez rare.
Qu'est-ce qu'elle dit cette inscription ? Vous nous avez piqué.
Cette inscription, elle mentionne le nom d'un personnage, visiblement un personnage d'origine gauloise, qui se dote à un moment donné d'un prénom romain, Lucius, mais il continue à l'écrire dans sa langue, donc l'inscription est écrite en grec, et aujourd'hui, elle nous pose question, puisqu'on est sur des pistes de réflexion. Est-ce qu'il s'agit du propriétaire, peut-être de l'artisan qui aurait participé à la réalisation du décor? Pour l'instant, aucune certitude encore.
Est-ce que vous aviez auparavant des traces de l'existence de cette ville ? On prononce Uzesia ou Uzetia ?
Voilà, c'est ça.
Oui, Uzesia.
Et on avait très très peu d'indices au niveau des découvertes, quelques fragments de mosaïques qui avaient été découverts il y a déjà de très longtemps et des découvertes isolées, anciennes et sans contexte archéologique, je dirais. Mmh. Et puis on connaissait le nom d'Uzès puisqu'il était mentionné sur une stèle, une inscription donc qui avait été retrouvée à Nîmes. Mais jamais aucune fouille archéologique d'aussi grande envergure que la nôtre aujourd'hui n'avait été réalisée à Uzès, donc tout restait à faire en fait.
Quand on trouve une ville comme ça, nouvelle, a priori nouvelle, qu'est-ce qu'on cherche à savoir en premier ? Qu'est-ce qu'on veut comprendre dans une ville antique ?
Ben, on essaie de comprendre, je dirais, deux choses. On essaie de la saisir à travers le temps et à travers l'espace. À travers le temps, c'est-à-dire essayer de retrouver les premiers occupants. Alors, peut-être qu'on n'a pas forcément les premiers occupants de la ville d'Uzès dans sa totalité, mais en tout cas du secteur que nous, on est en train de fouiller. Visiblement, les premiers occupants arrivent dans le courant du 1er siècle avant notre ère. Et puis, on essaie de voir comment évolue la ville. Les dernières traces d'occupation pour nous remontent là au 7e siècle de notre ère. Et puis on essaie, bien sûr, à la fouille de la dégager en plan, hein, d'avoir l'organisation d'une ville. C'est ça qui est important aussi pour la comprendre, l'organisation de la trame urbaine, des rues, des îlots, comment étaient loties les parcelles, est-ce que des secteurs étaient réservés à des bâtiments publics ou plutôt à des habitations privées. Donc voilà, on essaie de la voir à travers le temps et à travers l'espace.
Mais alors, Philippe Quint, elle se trouve à quelle profondeur, cette ville antique exactement ?
Alors c'est pas très très profond, les vestiges les plus anciens autour de la mosaïque se situent entre 1,50 m et 2 m sous le sol actuel, et ils sont pratiquement posés sur le rocher naturel d'Uzès, un rocher calcaire.
Mais c'est très peu pour retourner 2000 ans en arrière alors ?
C'est très peu parce que il n'y a pas forcément D'habitude, les villes généralement se superposent les unes aux autres, oui. Mais il arrive aussi que quand des personnes arrivent sur un nouveau terrain, ils vont détruire ce qu'il y avait, les constructions qui existaient auparavant, et reconstruire par-dessus. Donc la sédimentation n'est pas très importante, et on observe comme ça sur le chantier du ZES des constructions du 1er siècle de notre ère qui sont pratiquement au contact d'autres constructions nettement plus neuves, nettement plus nouvelles, de 600 ans qui sont construites 600 ans plus tard. Mais les deux sont pratiquement au contact et superposées l'une à l'autre.
Pas très loin de Uzès, il y a Nîmes, qui a aussi un passé antique. Est-ce qu'on peut imaginer une histoire commune de ces deux villes, des interactions dans l'histoire ?
Alors évidemment, il y avait probablement des relations entre les deux villes. Nîmes était le chef-lieu et gérait un grand territoire. Peut-être que Uzès, et on le pense depuis quelques temps, notamment par rapport à la mention du nom d'Uzès sur cette fameuse inscription trouvée à Nîmes, pouvait faire partie de ces agglomérations secondaires et donc avoir des échanges, des liens politiques, économiques avec la grande cité qui était Nîmes.
Alors, les fouilles vont continuer encore longtemps dans la cité du Cessia ?
On doit terminer la fouille dans le courant du mois d'août, donc c'est un long chantier, puisque nous, on a commencé dès le mois d'octobre 2016, et donc ça fait partie des grandes fouilles de ces 10 dernières années dans le sud de la France, hein, puisqu'on va pratiquement passer une année entière à Uzès à découvrir la vie romaine.
Donc c'est une course contre la montre aussi pour vous, alors ?
Un petit peu, c'est la difficulté aussi de ce type d'opération. On sait qu'on a une date de départ, une date de fin, et donc à nous d'organiser le calendrier de la fouille pour faire en sorte que au mois d'août, tout ce qu'on devait voir a été vu, photographié, enregistré, et voilà, c'est la petite difficulté, mais c'est un peu le quotidien de toutes les opérations d'archéologie préventive aujourd'hui.
Ouais, justement, la foule, elle peut visiter le site ou c'est vraiment fermé au public ?
Non, c'est ouvert au public puisqu'on organise des journées portes ouvertes ce week-end, donc le samedi 1er et le dimanche 2 avril, entre 10h et 17h. Et donc on va organiser toute une série de visites guidées pour le grand public et on leur fera découvrir la mosaïque, les bâtiments de l'Antiquité tardive, hein, du 6e siècle, donc ils pourront voir un petit peu tout, et notamment de la vie aussi quotidienne d'un chantier d'archéologie.
Que va devenir la très grande mosaïque que vous avez découverte après le mois d'août ? Est-ce qu'elle va être exposée ? Je crois que c'est une pièce assez exceptionnelle pour la France.
Alors c'est une pièce exceptionnelle d'abord par ses dimensions, hein, puisqu'on connaît peu d'exemples de pavements mosaïqués d'aussi grandes dimensions. Exceptionnelle aussi par la qualité de sa conservation, puisque ce qu'on appelle le tessellatum, c'est-à-dire l'assemblage de ces petites tesselles en pierre est quasi intact. Il en manque, il y a quelques lacunes, mais il est quasi intact. Et puis il est exceptionnel aussi pour sa chronologie, puisqu'on a plutôt la tendance à trouver des pavements de ce style. On en a trouvé à Nîmes, mais plutôt pour des périodes plus tardives, au 1er ou 2e siècle de notre ère. Ici, on est déjà au 1er siècle avant notre ère, et donc c'est par cette particularité, le pavement est exceptionnel. Et ce pavement va être déposé à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il va être enlevé dans de bonnes conditions pour pouvoir ensuite être restauré et exposé dans un lieu d'accueil qui pour l'instant n'est pas encore fixé.
Voilà pour les révélations de l'archéologie avec donc cette ville antique du Cessia révélée sous la ville d'Uzès. Philippe Quint, merci beaucoup pour vos explications. Et puis Axel,
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la pollution de l'air ne s'arrête pas aux frontières. Des études ont déjà montré le lien entre mort prématurée et pollution locale. Mais l'air peut être pollué à distance. La production, la consommation de biens, mais aussi leur transport génèrent de la pollution qui va ensuite se balader dans notre atmosphère. C'est pour évaluer ce phénomène que des chercheurs canadiens, américains et chinois ont joint leurs efforts. Ils estiment que 12% des morts prématurées dues aux particules fines résultent d'une pollution issue d'une autre région du globe. La pollution générée en Chine par la production de biens serait ainsi responsable de la mort de presque 65 000 personnes ailleurs dans le monde. A l'inverse, la consommation de biens en Europe et aux États-Unis serait responsable de la mort de presque 110 000 personnes en Chine. L'homme de Néandertal avait un sens de l'esthétique. C'est un os de corbeau retrouvé en Ukraine sur un ancien site fréquenté par Néandertal qui permet de l'affirmer. L'os présente 8 entailles régulières et réalisées avec un silex. Une étude au microscope révèle qu'il y avait initialement 6 entailles. Les deux autres ont donc été ajoutées après coup. pour harmoniser les espaces entre chaque entaille. Cette observation sur la manière dont les entailles ont été réalisées laisse entrevoir la volonté spécifique de créer un motif harmonieux. Et puis faire la sieste est bon pour le système immunitaire, au moins pour les mouches drosophiles. C'est ce que révèle une étude américaine. Les chercheurs ont comparé les capacités immunitaires de pas moins de 72 000 mouches. Et toutes ne sont pas égales. Les chercheurs ont repéré des variants génétiques permettant une meilleure protection aux maladies. Mais pas que, ils isolent également d'autres facteurs qui rendent aussi plus aptes à affronter les maladies. Et parmi eux, une sensibilité réduite au stress ou à la faim, mais également la régularité des siestes. Les mouches qui se reposent davantage sont mieux préparées à la maladie. La découverte intéresse particulièrement les chercheurs puisque 70% des gènes responsables de la maladie chez l'homme ont un gène correspondant chez les mouches.